Version originale, Aligre FM, culture, société, création. Version originale, Patrick, Léon, Émile.
Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Version Originale sur Aligre FM 93.1 comme chaque samedi à 19h. Dans de précédentes émissions, nous avons déjà parlé des récits d'esclaves américains grâce aux publications des presses universitaires de Rouen et du Havre dans la collection Récits d'esclaves justement. Il s'agit donc d'écrits d'esclaves noirs publiés par des maisons d'édition défendant l'abolition de l'esclavage au XIXe siècle. Aujourd'hui, nous parlerons de témoignages oraux, de femmes et d'hommes anciens esclaves. Au début des années 1930, en pleine crise économique aux États-Unis, le Federal Writers Project, une agence fédérale du New Deal, lance une entreprise de grande envergure, la collecte de la voix des sans-voix, dont des anciens esclaves. Près de 2300 témoignages d'anciens esclaves sont écoutés, recueillis, transcrits et édités. Cette histoire orale de l'esclavage est restée jusqu'à ce jour inédite en France. Les éditions Ici-Bas nous proposent cette source inestimable et sans équivalent dans le monde. Sous le règne du fouet, c'est le titre du livre, une histoire orale de l'esclavage aux États-Unis. Sous le règne du fouet est publié aux éditions Ici-Bas, traduit de l'anglais par Elsa Quéré. La préface est de Françoise Vergès. Françoise Vergès est mon invitée. Bonsoir, Françoise.
Bonsoir.
Bienvenue à l'antenne d'Aligre FM. Vous êtes donc politologue, autrice de nombreux livres, parmi lesquels Le ventre des femmes, programme de désordre absolu que j'ai beaucoup aimé, j'en parlais il y a quelques années, et donc une théorie, et aussi une théorie féministe de la violence, pour ne citer que ces trois titres. Dans ce livre donc sont réunis 27 entretiens réalisés entre 1936 et 1938 avec d'anciens esclaves, hommes et femmes. Ces 27 entretiens ont été choisis parmi 2300 conservés à la Bibliothèque du Congrès. Ces entretiens ont été traduits, je le disais, par Elsa Quéré. Françoise Vergès, la préface de ce livre que vous avez écrit nous éclaire sur les conditions, sur le contexte politique dans lequel ces entretiens ont été réalisés entre 1936 et 1938. Votre texte est aussi une profonde réflexion sur l'historiographie de l'esclavage. Alors, je rappelle, le Federal Writers Project était une agence fédérale dont la vocation était de conserver la mémoire des anciens dans un pays encore jeune. Cette agence voulait valoriser les histoires et les savoirs des classes populaires. Donc, 1936-1938, déjà pourquoi cela se passe à ce moment-là, plus exactement dans ces années 30, donc plus exactement 1936 à 1938, y a-t-il eu une situation qui a rendu favorable l'écoute de la parole des anciens esclaves?
Alors, merci de me recevoir. Oui, une époque, en tout cas, un climat intellectuel, je pourrais dire, rend cela possible. On est en pleine époque du New Deal, c'est-à-dire donc le programme mis en place par Franklin Roosevelt, et il y a parmi donc les auteurs et les intellectuels qui vont s'engager dans, dans les différents programmes culturels que met en place le New Deal, des gens de gauche, des gens de vraiment, et même donc des communistes, des gens vraiment qui trouvent que l'histoire populaire des États-Unis a été totalement négligée. Donc l'histoire des classes populaires, pourrions-nous dire. Et dans ces classes populaires, il y a encore de ceux qui ont, et celles qui ont été encore plus négligées, ce sont les esclavisés. Pas les descendants, puisque comme l'esclavage est aboli très tard aux États-Unis, il y a encore des survivants dans ces années-là, dans ces années 30. Et l'idée assez extraordinaire qui a été prise dans cette idée d'aller interroger, de rassembler des témoignages des classes populaires, il y a aussi donc cette communauté, ces communautés d'anciens esclavisés, mais enfin qui ont connu l'esclavage. Mmh. Et c'est ça qui va être assez extraordinaire, c'est que donc des personnes vont être formées pour aller recueillir ces témoignages de femmes, d'hommes, d'âges différents. Certains étaient des enfants,
de petits-enfants. D'autres étaient déjà des personnes plus développées, des jeunes femmes ou des jeunes hommes, ou parfois déjà des adultes, de jeunes adultes, qui ont connu vraiment l'esclavage. Donc en cela, c'est absolument extraordinaire. On parlera sans doute des problèmes que malgré tout qui ont été là pendant la cueillette, et puis de l'idéologie quand même des personnes qui ont recueilli ces témoignages. Mais c'est quand même extraordinaire. C'est unique. Ça ne s'est pas passé dans le monde esclavagiste français, ça ne s'est pas passé dans le monde esclavagiste anglais. Bon, le monde esclavagiste portugais et espagnol était déjà aboli depuis bien longtemps. Mais il est, pour moi qui ai étudié l'esclavagisme français, j'ai toujours pensé que c'était absolument extraordinaire qu'en 1848, personne, mais absolument personne, n'ait pensé à recueillir ces témoignages. C'est-à-dire, à La Réunion, on dit qu'il y avait 60 000 esclavisés sur 100 000 habitants qui deviennent donc, au moment de l'esclavage aboli, le 20 décembre 1948. Voilà. Personne, 60 000 personnes, c'est énorme. On aurait eu des connaissances extraordinaires.
Est-ce que vous auriez un début d'explication à ce manque, à cette carence?
Alors, l'indifférence assez grande, puis aussi la conviction chez les Français, dans l'idéologie française abolitionniste, que ça avait été amené, que c'était un don de la générosité de la France, et donc ça suffisait en soi-même. Mmh. Et la République s'était lavée du péché, du crime de l'esclavage, donc il n'y avait plus rien à dire. La République avait libéré les esclaves et donc ne voulait même plus parler de ça, ça appartenait à un passé qu'il fallait oublier, enfin qu'il fallait, chapitre clos. Mmh.
Restons quelques minutes sur le contenu, bien sûr, de ces entretiens qui sont transcrits dans ce livre. Bien sûr, on lit dans ces 27 entretiens devenus récits dans le livre, on lit des choses très très diverses, atroces. L'innommable nous tombe sous les yeux. C'est indescriptible, cette inhumanité de l'esclavage. C'est inimaginable ce qu'on peut y lire. On lit également chez certains. Alors, il faut souligner que les personnes, ça va de 85 à 121 ans, j'ai remarqué. Donc, ce sont des personnes très âgées qui parlent. Et il y a des personnes qui oublient la date de leur naissance. Ils ne savent pas quand ils sont nés, ils ne savent pas où ils sont nés. On rencontre également des personnes qui disent du bien de leur maître, qui disent « ma maîtresse, c'est une bonne personne ». Et on constate également le cas extrême, un nourrisson de 9 mois qui est battu. Ça va vraiment des éléments très très divers qu'on peut rencontrer dans ces textes-là. Alors, donc le projet en lui-même, donc je le disais, lancé par le Federal Writers Project. Donc déjà, qui réalise les entretiens?
Alors justement, c'est là que qui va avoir quelques problèmes, parce qu'il y a des personnes qui sont pas formées. Déjà à l'écoute, à comment recueillir un témoignage, qui vont intervenir ou qui vont avoir et puis qui vont avoir des questions dirigées, parce que on est aussi dans le sud, donc il y a encore des personnes imprégnées de l'idée que l'esclavage, bien sûr, c'est il faut réprouver, mais ça n'a pas été si mauvais que ça. Donc oui, mais enfin quand même, ta maîtresse a été peut-être pas totalement méchante. Donc il va avoir des questions un peu dirigées, d'autres qui vont peut-être recueillir. Il y a aussi la question de la langue. Les Africains-Américains parlaient leur anglais. Et donc parfois c'est retranscrit de manière... ou parce que les gens qui recueillaient ne comprenaient pas, ou à travers un certain racisme. Donc, il y a de tout, si on peut dire. Mais c'est vrai que ça n'a pas été dirigé par des personnes qui voulaient vraiment recueillir complètement. Il y avait malgré tout une certaine idéologie de condamnation, mais en même temps de peut-être d'essayer ici et là de trouver des exemples disant que bon, oui, mais il y avait aussi eu de bons maîtres, qui est toujours cette tendance qu'on retrouve partout dès qu'on parle d'esclavage. Oui, mais ils n'étaient pas tous pareils. Comme si le fait qu'il y aurait eu deux qui n'auraient pas battu leur esclavisé tous les jours allait sauver un système. Quoi.
Et il y a aussi la question de la couleur de la peau. Les personnes qui mènent les entretiens, il y a des blancs, il y a des personnes blanches, à peau blanche, des personnes à la peau noire. Donc, ce qui quand même influence la conduite des entretiens. C'est intéressant puisque il y a un exemple que vous soulignez, c'est que quand on pose la question de la qualité de l'alimentation, quand la question est posée par des personnes blanches, on obtient 72% de réponses satisfaisantes. Et quand cette même question est posée par des personnes noires, on obtient 46% de réponses satisfaisantes. Ça, c'est très révélateur. Il y a une différence énorme entre 46 et 72%. Donc, ça veut dire que la couleur de la peau de la personne qui interviewe a quand même beaucoup joué.
A beaucoup joué. D'une part, bon, il faut aussi penser que les esclavisés, la plupart d'entre eux, n'avaient pas reçu d'éducation, c'est-à-dire ne savaient pas lire et écrire nécessairement, hein, la plupart d'entre eux. Donc, ils voient arriver des personnes qui savent lire et écrire, qui ont reçu une éducation. Bon, déjà, il y a une question de différence. Et en plus, c'est des blancs. Et aux blancs, on ne dit jamais tout. C'est très, très dangereux de leur dire la vérité, de dire vraiment ce qu'on pense. Mmh. C'est une protection, c'est une autodéfense de faire ça. Et de faire entendre aux blancs ce qu'on pense qu'il ou elle veut entendre. Comme ça, on ne va pas avoir d'ennui. Avec la personne noire, on va se sentir plus en confiance. Et on va pouvoir être plus près de la vérité et de dire, ben oui, la nourriture était ignoble, on n'en avait pas assez, on était tout le temps affamé. Alors qu'on ne va pas le dire. On n'est pas loin de la fin de l'esclavage, quand même, pas si loin. On est dans le sud des États-Unis beaucoup, c'est-à-dire où la ségrégation est en place. Il y a le Ku Klux Klan qui rôde par ici, par là. Donc on est très prudent, on fait très très attention à ce qu'on dit, parce que d'ici, que même si la personne qui recueille cette blanche ou ce blanc n'est pas nécessairement un membre du Ku Klux Klan, mais peut parler à des connaissances autour. Ah oui, mais alors cette personne noire là-bas, là, elle a dit ça et ça. Or, les propriétaires d'esclaves vivaient encore, ou leur famille vivait encore. Et donc, tout ça pouvait déclencher des vengeances. Et la prudence était très importante, rester très prudent. L'esclavage a été aboli, les gens sont toujours, les noirs sont toujours dans la misère, c'est la ségrégation, donc on fait très attention, ils font très attention. Et donc ça, la différence évidemment de la confiance, parce que pour les noirs, on ne peut pas leur faire confiance. Quand on leur a fait confiance, on s'est mordu les doigts.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Il y a cette idée.
Il y a cette idée.
Persistante.
Oui, il y a cette idée persistante. Et on ne peut pas leur faire confiance complètement. Ou parce qu'ils sont trop bêtes et qu'ils vont parler comme ça sans réfléchir. Ou parce que, malgré tout, ils vont nous en vouloir d'avoir dit la vérité. Parce que, après tout, c'est leur système. Ils veulent quand même s'ils le condamnent, malgré tout, encore trouver que peut-être ici et là, ça n'a pas été si terrible.
Alors, quelques repères chronologiques. Donc, l'abolition de l'esclavage, donc le 13e amendement, c'est 1865. Et donc là, on parle de choses qui ont lieu entre 1936 et 1938. Donc, ce n'est pas si lointain que ça à l'échelle de l'humanité. Juste, la publication de récits d'esclaves commence donc au XVIIIe siècle, hein, 1787 plus exactement, et rencontre donc une grande audience, et au XIXe siècle, avec la publication des récits de Nat Turner, par exemple, pour citer les plus connus, Frederick Douglass, Sojourner Truth. Mis à part la différence de forme donc, entre l'écrit et l'oral, entre ces deux projets politiques, déjà, quelle différence d'impact y a-t-il entre ces deux formes, la publication écrite et donc le recueil donc des propos à l'oral?
Alors déjà, les publications écrites, on est dans un grand moment de mobilisation anti-esclavagiste et ces voix sont extrêmement importantes. Elles parlent avec force et clarté, que ce soit Frederick Douglass ou Sojourner Truth ou d'autres. Et on est donc dans ce moment de mobilisation. Dans les années 30, pour la société américaine blanche, c'est fini ça. C'est fini. L'esclavage s'est terminé. Il y a eu une guerre. Le Nord a gagné. Et donc là, ça n'a plus d'importance. D'ailleurs, ces témoignages n'auront pas de grands succès éditoriaux, ce ne sont pas particulièrement, alors que c'est un moment où ça aurait été important, puisque ça parlait de comment ça se perpétuait, que le racisme se perpétuait. Donc on est aussi dans deux moments où le public, enfin je veux dire l'audience, n'est déjà plus la même. Et dans ce moment d'après esclavage dans les années 30, on est à la fois dans un moment de progrès social avec le New Deal, mais aussi de recul sur les droits des Africains-Américains déjà. Avec évidemment la ségrégation qui va arriver, et qui est déjà là. Le fait aussi que des promesses n'ont pas été tenues, c'est-à-dire il n'y a toujours pas la propriété de la terre, il n'y a pas le travail. Il y aura donc un moment même de grande migration vers le nord pour à la fois échapper au racisme, à la ségrégation, Ku Klux Klan, et trouver du travail. Donc on est aussi dans un moment où finalement la société américaine n'est plus, la société blanche, n'est plus nécessairement dans la même écoute qu'une partie de la société blanche l'était au 19e.
Françoise Vergès, sous quelle forme donc l'abolition entre-t-elle dans les récits nationaux à ce moment-là justement ?
À ce moment-là, c'est déjà aux États-Unis, c'est un peu clos, quoi. On est vraiment dans cette question du New Deal, d'apporter des lois sociales, de freiner les grands monopoles industriels, d'imposer des lois du travail, comme on dit. On est déjà donc dans un autre moment. Avec le sentiment très très fort, l'abolition a joué très fortement dans les sociétés blanches, comme vraiment le chapitre était clos, que ce soit en France, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, dans les trois grandes puissances esclavagistes du 19e siècle. Vraiment le sentiment qu'on a mis fin à ça, donc maintenant c'est plus un sujet. C'est plus un sujet, il n'en est pas question. Ça prendra très longtemps à revenir, ça prendra très longtemps. C'est vraiment que dans les années 60 que ces témoignages sont repris par des intellectuels africains-américains qui veulent justement rappeler que les choses se sont perpétuées, que l'abolition n'a pas mis fin à un système qui lui se perpétue. Même s'il n'y a plus de marché d'esclaves, de trafic, il y a quelque chose qui se perpétue, le racisme évidemment, mais aussi la propriété de la terre, l'accès à l'éducation, au travail, au logement, à tout cela. Donc on est dans un moment où finalement le poids de l'esclavage, l'héritage de l'esclavage ne veut pas être très pris en compte par la société américaine blanche, mais même aussi par des intellectuels.
Et dans les témoignages qui se trouvent dans le livre, il y a donc, c'est une femme, je crois, ancienne esclave, qui, en quelque sorte, ne souhaite pas en parler. Et pas tellement parce que c'est douloureux, mais parce qu'elle voulait, on sent que c'est une volonté de se reconstruire. Comme s'il, alors bien évidemment, c'est un autre point de vue, comme s'il disait, mais laissons ça derrière, je laisse ça derrière moi pour me reconstruire. Donc c'était une manière de signaler qu'il y a des réactions très différentes qu'on trouve dans les entretiens justement. Alors, en élément chronologique aussi important, on parle de 1936-1938. Je rappelle que la ségrégation est encore là. Les lois Jim Crow, mises en place en 1877, vont disparaître en 1964. Il faut bien resituer les choses. Il y a deux moments très différents, l'esclavage, ensuite la ségrégation continue. Et quelle ségrégation ? Alors, est-ce que ces entretiens sont parvenus donc à construire une mémoire officielle de l'esclavage, on va dire élaborée par les anciens esclaves eux-mêmes ?
Il aurait fallu peut-être qu'il y ait plus d'écoute. Mais ils peuvent être lus aujourd'hui. En tout cas, ces voix existent. Et comme vous le soulignez, on voit à la fois que bon, l'esclavage est un système et qu'il y a des êtres humains. Et que les êtres humains réagissent, chaque être humain va réagir de manière un peu différente à ce qui s'est passé. Donc certaines ou certains vont vouloir effectivement vivre leur vie maintenant, ne plus avoir à porter ce fardeau. Parce qu'il peut avoir aussi l'idée que le fardeau n'est plus apporté par les Noirs américains, mais par la société blanche, puisque c'est elle qui a institué l'esclavage. Pourquoi ce serait encore aux Africains américains, aux Noirs, de porter ce fardeau et de réparer la société, société qui a été mise en place par les Blancs qui continuent à être là. Donc il y a une position qui va s'affirmer d'ailleurs plus dans les années 60-70 avec même le Black Panther Party et d'autres, c'est-à-dire c'est pas notre affaire ça, c'est la vôtre, c'est-à-dire nous portons nous notre histoire, mais nous ne voulons pas porter le fardeau du crime. Le fardeau du crime, c'est vous. C'est pas à nous de porter ça. Nous, nous portons notre histoire, effectivement, ce que ça a été, nos ancêtres arrachés à leur terre natale, les punitions, mais aussi la résistance des créations, des transmissions de savoir, de techniques, le marronnage, enfin, on n'appelait pas ça le marronnage là-bas, mais enfin, bon, l'équivalent du marronnage, les révoltes, les insurrections. Et c'est ça aussi peut-être plus notre histoire. Et la vôtre, c'est celle de cette organisation d'un système profondément déshumanisant. C'est vous qui avez fait d'être humain des objets. Nous n'avons jamais été objets. Nous sommes restés des êtres humains. Donc ça, cette position qui est présente dans le témoignage de cette femme et qui va s'affirmer est une position aussi à ce moment-là et qui va beaucoup heurter les Blancs qui voudraient justement que tout le monde, que les Noirs participent avec eux à la réparation de la société du crime.
Like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. 'Cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Then I go to my brother. Say, brother, help me, please. But he winds up knocking me back down on my knees. Oh, there have been times. But I know a change gonna come. Oh, yes, it will.
A change is gonna come, la très belle voix de Sam Cooke. Un peu de douceur parce que nous parlons de choses quand même qui sont dures. L'esclavage, donc une histoire orale de l'esclavage aux États-Unis. Le titre du livre « Sous le règne du fouet » avec aux éditions donc ici-bas. Préface de Françoise Vergès qui est notre invitée. Un livre traduit par Elsa Kerry. Rappelons les abolitions. Françoise Vergès, 1838, c'est les colonies britanniques, abolition de l'esclavage dans les colonies britanniques, 1848 dans les colonies françaises. Après donc les abolitions de l'esclavage, les États anglais et français vont se vous le soulignez dans votre texte, vont se présenter comme des puissances anti-esclavagistes pour justifier la colonisation au XIXe siècle et apporter la civilisation aux prétendus sauvages. Vous écrivez donc que peu d'ouvrages examinent le passage d'un régime de domination à un autre. Vous soulignez, l'abolition est montrée comme une rupture radicale qui masque ce qui est mis en œuvre. Une nouvelle politique de domination impérialiste, d'extraction et de dépossession. Donc, pour vous, cette césure-là, cette prétendue césure, c'est quelque chose qui n'est pas assez mis en évidence et évident dans l'histoire. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Donc, la fin de l'esclavage, ensuite on passe à autre chose tout aussi terrible, qui est la colonisation.
Si on prend le cas français, n'oublions pas que la colonisation de l'Algérie commence en 1830 et qu'en 1848, non seulement l'État français proclame l'abolition de l'esclavage, mais aussi transforme la colonie de l'Algérie en département français. C'est le début de l'Algérie française qui prendra fin en 1962. Donc dans les années entre 1830 et 1848, évidemment, il y a des personnes en France, dans l'État français, qui pensent à quelle forme, qu'est-ce qui va être mis en place, comment on va passer du code noir au code de l'indigénat. Et si on fait des anciens esclavisés dans les colonies françaises des citoyens, est-ce que vraiment ils vont être complètement égaux ? Est-ce que ça va être la totale égalité ? Toutes ces questions se posent. Et donc, qu'est-ce qui est mis en place pour freiner, pour entraver la pleine liberté, la pleine émancipation ? Ça se passera pareil dans les colonies anglaises et aussi aux États-Unis, même si les lois sont différentes. Parce qu'en fait, finalement, dans cette idée d'abolition de l'esclavage, qui aurait dû donner pleine égalité, pleine liberté, pleine émancipation aux anciens donc esclavisés, il y a volonté de freiner, d'entraver la pleine et le plein exercice de cette égalité. Et parce qu'on peut être anti-esclavagiste, mais on n'est pas anti-raciste, nécessairement. Donc on est contre l'esclavage, mais ça ne veut pas dire qu'on est antiraciste. Donc on maintient quand même des choses en place pour ce qui est. Et puis dans les nouvelles colonies post-esclavagistes, dans la colonisation post-esclavagiste, on met en place des formes, des codes ou des formes de codes de l'indigénat et d'autres qui vont entre le travail forcé tout de suite, donc qui perpétuent l'exploitation. Et dans les colonies anciennement esclavagistes, il n'y a pas du tout de réparation. La réparation va aux propriétaires d'esclaves dans les colonies françaises et anglaises, et aux États-Unis non. Et surtout, donc, la terre reste dans les mains des grands propriétaires. Le travail est forcé, c'est pas du tout le même travail forcé que dans les colonies françaises ou anglaises, mais c'est le fait que si vous êtes pris sans travail, sans contrat de travail, vous pouvez être condamné à la prison. Donc on voit tout se mettre en place pour entraver profondément la liberté. Et je voudrais quand même souligner une chose. Pour le cas français, le modèle se met en place avec la révolution haïtienne.
1804.
C'est impensable pour l'État français. La proclamation de la République noire d'Haïti, le 1er janvier 1804. Et donc l'État français va tout faire pour entraver. Et c'est la mise en place d'un modèle. Le blocus, la non-reconnaissance de la souveraineté de cette république, donc de l'étrangler complètement jusqu'en 1825, d'accorder la souveraineté à condition que la jeune république paye aux anciens donc propriétaires d'esclaves le montant de la perte de leur propriété privée, puisque c'était des propriétés privées. Et ensuite, la jeune République est obligée d'emprunter à la France cet argent, donc ce qu'on appelle la double dette. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'il faut qu'on se rende compte que toute la fois que l'État français ou anglais ou états-unien a été forcé de mettre fin à un système absolument déshumanisant comme celui de l'esclavage, c'était avec des conditions. C'était jamais complètement vraiment une émancipation. Et les conditions étaient toujours pour entraver finalement l'accès total à une population noire à une pleine liberté et égalité, à de la justice. Et ça, on le voit effectivement là dans les témoignages, beaucoup de témoignages sur la misère, sur le fait qu'il n'y a pas... c'est la totale misère. C'est-à-dire que les personnes ont été, elles ne sont plus esclavisées, mais elles sont dans une totale misère.
Elles n'ont plus rien du tout.
Elles n'ont plus rien. C'est pour ça que, comme vous le disiez, il y en a certains qui se disent, mais au moins là, on mangeait. Et il faut comprendre, c'est pas qu'ils regrettent ce système, c'est que là, on ne mange plus. C'est presque pire. Et donc c'est le système qui amène des personnes à penser que malgré tout là on mangeait. Le maître était obligé de nous donner à manger alors que là on crève de faim. Donc c'est ces libertés totalement entravées qui aussi transparaissent à travers les témoignages oraux de ces personnes, de ces femmes et de ces hommes. Le fait que elles n'ont plus le statut d'esclavisées, mais elles ne sont pas libres totalement et elles ne sont certainement pas égales dans cette société états-unienne.
Un autre aspect aussi, j'ai voulu qu'on s'arrête sur cette question donc, de l'abolition. Il y a un autre aspect aussi qui me paraît très important. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est cette idée de faire en sorte qu'on comprenne que ce fait, c'est les Blancs qui ont décidé par un élan de générosité de mettre fin à l'esclavage. Alors qu'il y a eu des révoltes d'esclaves, bien évidemment. Il y a eu, bien sûr, il y a une lutte pour cette liberté-là.
Oui, tout à fait. En fait, les siècles d'esclavage sont des siècles de constantes révoltes, d'insurrections, de marronnage, de fuite, de suicide, d'empoisonnement. Toutes les formes de résistance sont là. Toutes celles des petites quotidiennes, si on peut dire, aussi de transmission de savoir, de rituels pour enterrer les morts, pour célébrer les naissances, pour vivre en dehors du regard de l'esclavagiste. Et ces luttes, ces formes n'ont jamais cessé. Et elles mettent effectivement en danger le système esclavagiste, qui rejoint aussi des philosophies nouvelles d'un nouveau capitalisme, même moins mercantile et beaucoup plus industriel cette fois-ci. Donc il y a aussi, il y a plusieurs intérêts. Mais certainement, c'était un système qui était très... Quand vous lisez les témoignages des esclavagistes, ils sont constamment peur. Ils parlent de la peur d'être étranglés, assassinés. On les comprend, c'était légitime. Ils savaient ce qu'ils faisaient.
D'où leur cruauté pour enlever toute envie de se soulever.
D'où leur cruauté. Parce que, imaginez la plantation. Vous avez le maître avec sa famille dans la maison du maître, mais il est entouré de beaucoup plus de personnes qu'il domine. Et donc, il faut qu'il domine par la terreur constante, ou elle d'ailleurs, parce qu'il y a eu des femmes aussi, par une terreur constante. Parce que sinon, ces personnes, inévitablement, vont se révolter, et d'ailleurs se révoltent. Donc, il faut imposer une terreur constante. Donc, l'esclavage, c'est aussi la terreur constante. Et que la terreur... Parce que les images qui ont été données, c'est constamment la punition visible et spectaculaire. Mais c'était la peur constante, la peur qu'on vous enlève votre enfant, qu'on vous enlève votre compagnon, votre compagne, que vous soyez fouetté à mort. Et il y a des témoignages sur des personnes qui perdent leur compagnon ou leur compagne, qui ne savent pas du tout un jour, elle est disparue, et apprennent qu'il ou elle a été vendue. C'est effrayant quand on y pense. C'est profondément effrayant. C'est terrorisant. Vous n'y avez pas vous n'étiez pas sur un sol solide. Et donc cette construction de communauté malgré tout qui tienne pour que quelque chose reste malgré tout d'une communauté est très importante. Donc oui, il n'a pas cessé d'avoir des révoltes qui ont été chaque fois écrasées dans le sang et dans des spectacles de punition collective pour vraiment semer la terreur. Et pourtant, les révoltes ont continué.
Je reviens au texte, François Vergès. C'est une précision que je ne vous ai pas demandé. Une fois que les entretiens ont été recueillis, donc sous forme d'écrit, donc maintenant, qu'est-ce qu'on en a fait ?
En fait, ils ont été emmenés, ils ont été recueillis, puis ils ont été mis à la librairie du Congrès assez rapidement. Et il n'y a pas eu vraiment de publication commentée, comme on dit, qui est mise en avant, en fait. Vraiment, c'est vraiment dans les années 60, au moment où des renouveaux de mouvements de libération noire, qu'il y a un retour vers ça, et avec ces mouvements-là qu'il y aura une mise en lumière de ces témoignages et de leur importance, de souligner leur importance.
Vous soulignez que traite et esclavage ne sont pas abordés comme des moments structurants de l'histoire de l'humanité, mais renvoyés à un passé sans héritage et sans conséquences, effacé par la mission civilisatrice coloniale. Expliquez-nous dans quelle mesure l'esclavage est-il un moment structurant de l'histoire de l'humanité ?
Il est structurant, l'esclavage colonial, j'insiste, parce que très souvent on met en relation avec d'autres formes d'esclavage, on nous dit l'esclavage a existé tout le temps et partout. Cet esclavage-là met en place une division du monde qu'aucun autre système d'esclavage n'a fait. Met en place une forme d'économie qui est mondiale, qui est globale. C'est-à-dire les esclavagistes, ils étaient liés à des banques qui étaient à Londres ou à Liverpool ou à Paris ou à Bordeaux. Des systèmes d'assurance, des armateurs. C'est un système où il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont liées les unes aux autres. Depuis ceux qui font les fabricants de tissus pour faire les voiles pour les bateaux négriers, jusqu'à celui qui fabrique le canon ou celui... Et puis de l'autre côté, c'est un système global. C'est la première fois qu'il y a aussi autour d'une seule chose, c'est-à-dire la traite et l'esclavage. Donc ça va être une bascule du monde. Ça va aussi, la traite va vider toute une partie de l'Afrique qu'on dit occidentale d'une grande partie de sa population. Selon des historiens, ça va faire un déséquilibre démographique qui va être très important, qui va énormément impacter cette région du monde jusqu'à au moment où ça se rétablit, mais presque c'est au XXe siècle. Avec donc des conséquences sur la terre africaine, de villages abandonnés, de cultures abandonnées, parce que les gens sont soit capturés ou partent, fuient. Et de l'autre côté, aussi un environnement qui prend tout... c'est pas seulement une économie, mais on déboise pour faire d'immenses champs de canne ou à sucre ou de coton ou de café. Donc c'est des bouleversements profonds, avec évidemment aussi au cœur de ça la déshumanisation de toute de millions de femmes et d'hommes en les désignant comme objets. Il y a une relation à la propriété privée, puisque l'être humain devient une propriété privée. La propriété privée est au cœur de l'économie libérale et néolibérale, capitaliste. Donc ce sont vraiment des choses qui sont toujours avec nous. D'une certaine manière, Nelly Schmidt, l'historienne de l'esclavage et de la traite, avait un livre dont le titre était « L'esclavage a-t-il vraiment été aboli ?» Et on pourrait se poser cette question. Et quelque chose s'est passé, on ne va pas le nier, mais a-t-il vraiment été aboli ? Au sens, ce que l'esclavage a mis en place quand on regarde le Brésil, quand on regarde les États-Unis, quand on regarde les anciennes colonies françaises esclavagistes, est-ce que l'esclavage a vraiment aboli quelque chose ? Au sens de justement, est-ce que ça a pas est-ce que les choses n'ont pas été perpétuées sous un autre nom ? Et donc l'esclavage a vraiment, je pense que nous vivons toujours sous des formes mises en place par l'esclavage, d'une part, et d'autre part, le rapport au travail, au corps de la personne noire reste le même. Il y a quelque chose qui ne s'est pas effacé. On n'a qu'à voir comment se passe l'extraction au Congo, avec le génocide, ou la manière dont, par exemple, il y a un génocide au Soudan, on ne peut pas dire que ça fait beaucoup bouger les gens en Occident. Non. Donc il y a quelque chose du rapport à la vie de la vie noire, si on peut dire, Black Lives, qui est vraiment très profond et qui s'enracine là, je pense. Et il y a des choses beaucoup plus profondes aussi, parce que l'esclavage, si vous voulez, quand on voit en Occident toute cette histoire, cette discussion autour du genre, les hommes, les femmes, l'esclavage à la fois insiste sur le corps féminin, puisqu'il reproduit la force servile,
et le corps masculin, puisque c'est lui qui doit faire en sorte que le corps féminin procrée. Mais en même temps, l'homme noir, on lui dénie la paternité, le rôle paternel, et la femme, les femmes noires esclavisées, travaillaient jusqu'à la dernière jour de leur, quand elles étaient enceintes, elles donnaient souvent naissance dans le champ lui-même, il n'y avait pas de congé. Donc, au moment où la femme blanche est construite comme fragile, besoin, enfin, toutes ces solidifications de ce qu'on appelle le genre aujourd'hui, l'homme qui fait ceci, cela, la femme qui fait ceci, cela, ne s'applique pas aussi fortement pour les personnes noires, femmes ou hommes. Donc, en fait, l'esclavage insiste sur beaucoup de choses. Interdit la famille, interdit de faire famille. On le voit dans des témoignages, je le rappelle. A des effets profonds, sociaux, environnementaux, économiques, intellectuels, sur la conception de la liberté. John Locke, le grand philosophe du libéralisme du 19e siècle, est absolument contre la monarchie et la tyrannie et la propriété. Donc, les Anglais ne peuvent pas, doivent être des hommes libres. Donc, il ne peut pas avoir de royauté absolue. Il ne peut pas avoir de royauté de droit divin. Mais, par contre, ils peuvent posséder des Noirs esclavisés. Donc, la liberté, elle est à condition, de nouveau. L'égalité est de nouveau à condition, au cœur même de ce qui va constituer la philosophie de la démocratie libérale. Donc l'esclavage a joué sur énormément de choses qui ont façonné le monde dans lequel nous continuons à vivre aujourd'hui.
Quand vous regardez donc ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, faire de l'histoire, c'est toujours aussi parler du présent. Cette violence, cette fascisation des États-Unis aujourd'hui, quel lien faites-vous entre cette violence envers les esclaves pendant des siècles et celle qui s'exprime aujourd'hui?
Alors, il y a plusieurs choses. Je pense qu'on pourrait dire que toute une partie de la société américaine n'a toujours pas digéré la guerre civile, c'est-à-dire la perte de la possibilité d'avoir un Sud esclavagiste et un Nord qui ne le serait pas, mais que ça serait acceptable, que ça serait possible. A été fondée aussi sur une idée d'innocence totale, alors que c'est d'une démocratie qui est contraire aux démocraties européennes qui, elles, ont encore des rois et des tyrans. Là, c'est vraiment la République. Or, c'est fondé sur le génocide des Amérindiens et sur l'esclavage. Donc, c'est toute une série de récits illusoires, fictifs, sur lesquels reposent les États-Unis. Et donc, on le voit à l'œuvre encore aujourd'hui, cette idée d'innocence, de c'est pas les valeurs de notre pays, mais votre pays a été constitué là-dessus. La déclaration d'indépendance ne reconnaît pas l'existence ni des peuples amérindiens, ni des esclavisés. Donc aujourd'hui, c'est une société structurellement, profondément sur une suprématie blanche, sur une idée de suprématie blanche, et on le voit à l'œuvre avec le gouvernement actuel. L'idée d'une supériorité profonde, l'idée aussi d'une mission civilisatrice planétaire, différente de la mission civilisatrice coloniale européenne, parce qu'elle est là, pour les Américains blancs, pour la suprématie blanche, ils se seraient lavés du péché de la monarchie et de la tyrannie en se constituant contre le royaume d'Angleterre. Mais en fait, ils se constituent dans une liberté nouvelle par rapport à l'Angleterre ou à la France, à la Révolution anglaise ou la Révolution française, parce qu'elle est, dès le départ, racialisée. Il y avait de la racialisation en Europe, mais les États-Unis se constituent vraiment profondément sur cela, et donc on le voit aujourd'hui, cet incroyable racisme structurel.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Mon invité est Françoise Vergès, qui a écrit donc la préface du livre « Sous le règne du fouet, une histoire orale de l'esclavage aux États-Unis » aux éditions Ici-Bas. Le texte, livre traduit par Elsa Quéré. D'après vous, Françoise Vergès, pourquoi il n'y a-t-il plus de leaders noirs, leaders politiques noirs aux États-Unis. Je fais référence, bien sûr, à la disparition récente du révérend Jesse Jackson. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Comment peut-on l'expliquer ? Comment peut-on essayer de l'expliquer, ça ?
On peut dire que il y a un recul de leaders des coloniaux, c'est global. On pourrait dire que c'est une question globale. Dans beaucoup, beaucoup d'endroits d'Asie, d'Afrique, des Amériques, des Caraïbes et d'Europe, vraiment, il y a quelque chose qui se passe. Je pense qu'il y a eu une panique dans les classes dominantes de ce qui s'est passé. Aux États-Unis, Black Lives Matter, le mouvement, c'était quand même les plus grandes manifestations de toute l'histoire des États-Unis, ont, je sais pas, paniqué les classes dominantes. Profondément paniqué les classes dominantes. Ailleurs, c'est d'autres choses. Par exemple, en Inde, c'est tout le mouvement, pour le gouvernement en place, c'est l'hindouisme plus fort et une islamophobie très forte. En Argentine, c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est une contre-révolution globale par rapport à des mouvements, justement, de peuples aussi autochtones, de voulant la terre, l'accès à la terre et à l'eau. Donc, il y a un recul et de fait, n'oublions pas qu'énormément de leaders sont assassinés toujours, aujourd'hui. Ils sont toujours assassinés ou menacés. Et quand il y a des mouvements, justement, quand il y a des peuples souverains, il y a des menaces. C'est ce qui se passe, par exemple, aujourd'hui au Mali, au Niger, au Burkina Faso, les nouveaux régimes sont quand même menacés. C'est-à-dire c'est au peuple du Burkina Faso de trouver son chemin. C'est pas aux Français de leur dire. Bon. Et donc, oui, il y a pas de... Mais je pense que ça va revenir, parce que il y a quand même énormément de mobilisation aux États-Unis et ailleurs. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus de grands leaders, de grandes figures. D'une part, parce qu'on en a assassiné... Les États-Unis, on en a assassiné beaucoup. Quand même. Assassiné beaucoup. Ensuite, aussi, il y a eu un processus de pacification, de transformer Martin Luther King Jr. en gentil pasteur, alors qu'il était contre le capitalisme pour la fin de la guerre au Vietnam. Donc, les Black Panthers, c'est bon, maintenant, c'est peut-être des icônes de mode, mais on ne sait plus ce qu'ils ont dit. On ne sait pas ce que disait Fred Hampton. On ne sait pas ce que disait. On ne lit pas. Enfin, il y en a qui lisent, mais je veux dire, ce n'est pas connu. C'est plus que des images. Donc je pense qu'il y a tout un travail de réappropriation de ces histoires et puis de ces écrits. C'est très effacé. Et il y a un effacement très rapide de ce que des gens ont fait, des hommes et des femmes ont fait. Et donc ça s'oublie très rapidement et il n'y a plus que l'image qui peut à ce moment-là entrer dans des musées ou des galeries parce qu'il n'y a plus la force subversive.
Mais on peut dire quand même qu'aujourd'hui, l'historiographie de l'esclavage est débarrassée du racisme.
L'historiographie, oui, mais il n'y a pas encore d'acceptance dans les classes dominantes ou dans une grande partie de la société de ce que l'esclavagisme a signifié. Pour la société française, par exemple.
Et alors, la question se pose en France, qui dicte la... comment dire... La politique mémorielle, c'est surtout ça, c'est une vaste question.
Mais justement, c'est du mémoriel au sens, une fois par an, on dit ah oui, l'esclavage c'était mal, c'était pas bien, bon voilà, mais il n'y a rien, il n'y a rien dans l'éducation et dans le fait effectivement de ce que ça représente aujourd'hui. Si on regarde Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, c'est-à-dire quatre territoires qui sont toujours dans la République française et qui ont été des colonies esclavagistes, c'est des sociétés qui connaissent que des problèmes. Des taux de chômage énormes, des problèmes de santé beaucoup plus importants qu'ici, beaucoup plus graves. La terre est toujours dans les mêmes mains. Donc on voit qu'on est en 2026, l'esclavage a été aboli en 1848. Et en fait, si vous dites, ben oui, il y a encore des héritages de l'esclavage, on va vous dire, oh, vous regardez tout le temps le passé, c'est fini. Parce qu'on ne veut voir que les chaînes... Des moments comme ça qui ont été mis dans les films hollywoodiens. mais on ne voit pas la quotidienneté de ce que ça a mis en place, et notamment le rapport à la Terre.
C'est pour ça que je vous ai posé la question, j'ai soulevé la question de la diminution structurante de l'esclavage, justement. C'est-à-dire que vous l'avez dit, les résidus, les survivants sont encore là.
Oui, par exemple, bon, bah, écoutez, la Réunion, c'est toujours le canne à sucre, la monoculture, la banane en Martinique et en Guadeloupe, qui avait remplacé la canne à sucre à un moment donné. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu du tout de développement. Il n'y a eu pas de développement. Et tout ce qui a été un peu développé, qui avait été quand même développé à des moments, dans les années 30, 40, ça, a été détruit dans les années 60, 70. Et rendant ces territoires totalement dépendants. Donc, il y a quelque chose de structurant dans la relation, si vous voulez, dans la relation de l'État à ces terres. Ben, ces terres, elles sont là juste, je ne sais pas moi, pour fournir du sucre, de la banane, et puis une force de travail. Bon, les migrants qu'on a fait venir sur le Bumidom, et puis aujourd'hui, peut-être d'autres choses. Et puis, ce sont des territoires qui en tout cas pour la France, continuent à lui donner un certain prestige. Font de la France le deuxième puissance maritime au monde. Alors que la France est quand même un tout petit pays avec quelques kilomètres de côte. Mais grâce à tous ces territoires, c'est le deuxième empire maritime au monde. Et puis, c'est des intérêts géopolitiques, des intérêts économiques, des intérêts culturels. Donc, il y a quelque chose qui se maintient dans l'asymétrie, dans le fait qu'il n'y a pas de pouvoir souverain sur ces territoires. Les gens ne peuvent pas décider pour eux-mêmes. Ça, c'est une structure pour moi qui demeure dans cette relation de domination.
Françoise Vergès, j'aimerais vous entendre sur les moments les moments inquiétants que nous vivons aujourd'hui en France. Sous certains aspects, le nazisme est une dérivation du colonialisme. Il faut rappeler notamment que le nazisme s'est inspiré, entre autres, des lois racistes Jim Crow pour mettre en place les mesures anti-juives en Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. Quand on travaille, comme vous le faites, sur le colonialisme, le post-colonialisme, et que l'on voit comment le fascisme avance aujourd'hui en France, quel est votre sentiment là-dessus ?
Bon, déjà, de sentiment d'une nécessité vraiment de comprendre comment ça se passe, les mécanismes. Qu'est-ce qui fait que tant de médias s'y mettent, d'intellectuels et de journalistes, donc de comprendre les mécanismes de banalisation et de normalisation, de rendre ça normal. Et donc, on peut étudier cette normalisation qui a été à d'autres moments, des normalisations d'antisémitisme ou de l'esclavage, par exemple. Donc ça, et puis effectivement, donc de faire une analyse rigoureuse de tout cela, et comme vous le rappeliez, de voir les racines coloniales du fascisme et du nazisme. Donc vous rappeliez qu'effectivement Hitler admirait les lois Jim Crow, mais aussi on peut parler du discours sur le colonialisme de Césaire, où il rappelle que en fait tout ce qui s'est passé en Europe s'était déjà passé. Mais quand c'était, comme il dit, les coulis de l'Inde et les Noirs des États-Unis, ça n'avait pas d'importance. Et le crime, dit-il, du nazisme n'est pas le crime du nazisme, c'est le fait de l'avoir fait à des hommes blancs. Enfin, c'est sa formule. Et donc, il souligne ces racines coloniales, c'est-à-dire ancrées dans ce racisme qui est inévitable à la colonisation. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe en France, on peut penser au fait que toute une partie de la société française, et notamment dans les classes qui élues et dominantes, n'a jamais digéré, si on peut dire, elle est la perte de son empire colonial. Il y a quelque chose de profondément ancré dans cette classe dominante, d'un regret, d'une nostalgie, mais aussi de fait qu'on ne laissera pas ces gens-là être nos égaux. Et ça, c'est vraiment profondément ancré. Il y a une pensée raciste de très longtemps, depuis des siècles, dès le début de la colonisation, dès le 15e siècle, il y a une idée que le reste du monde est incivilisé et que la seule civilisation, elle est chrétienne et blanche. C'est écrit même dans des textes du 18e et du 17e. Et aujourd'hui, on voit bien l'islamophobie absolument délirante qu'il y a, la justification d'envahir des pays, de bombarder. Enfin, c'est effrayant ce qui se passe. Mmh. Et le nombre de femmes et d'hommes et d'enfants qui viennent d'Afrique subsaharienne et qui se noient tous les jours dans la Méditerranée ou dans la Manche dans une totale indifférence, on voit à quel point il y a des vies qui ne valent rien pour ces gens-là, qui ne valent vraiment rien. Et donc, cette formule Black Lives Matter, les vies noires comptent, elle dit quelque chose, pas seulement au sens noir de la couleur de peau, mais de cette séparation, cette division qui a été faite au XVe siècle entre les vies qui comptent et les vies qui ne comptent pas. Et ces vies qui ne comptent pas, elles peuvent être différentes à des moments donnés. Ça peut viser telle ou telle communauté. À un moment, sous le nazisme, ça a été quand même, pour les nazis, les communautés juives, mais aussi Rome, et puis les opposants. Mais ça peut être, ça peut être d'autres choses. La question, c'est cette division qui se reconduit chaque fois et qu'il faudra surmonter si on veut mettre fin au fascisme et au racisme.
Merci Françoise Vergès. Merci. Je rappelle donc que vous avez rédigé la préface du livre « Sous le règne du fouet, une histoire orale de l'esclavage aux États-Unis », livre publié aux éditions Ici-Bas, traduit par Elsa Quéré. Amis auditeurs et amis auditrices, merci de nous avoir écoutés. À la réalisation technique ce soir, Renaud Poussin, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis ce soir. Restez à l'écoute d'Aligre FM. Dans un instant, vous retrouverez Dancehall Reggae Vibes et à 22h30, Audiométrique. Bon week-end, bonne semaine, à samedi prochain.
Version originale, Patrick, Léon-Émile. Yeah.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.